me semblait que Michel au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres.
On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma.
Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti.
S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France.
Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit pluridisciplinaire. Quelle est la stratégie des universités, des grandes écoles et des centres de recherche pour identifier et recruter les chercheurs? Comment s'assurer de la qualité des enseignants qu'on embauche? Qu'est-ce que la tenure? Ce statut de titulaire dans les universités tout à fait exceptionnel dans le système et le marché du travail américain. Qu'est-ce que le gouvernement par les pairs et en quoi consiste la double loyauté des universitaires? Pourquoi l'échange et la mobilité sont les valeurs premières dans la recherche et l'enseignement aux États-Unis? Nous continuons ce matin l'exploration des particularités du monde académique en compagnie de Pierre-Michel Minger, directeur d'études à l'EHESS et professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de sociologie du travail créateur. Ce monde académique doit gérer les prises de risque de la recherche, mais aux retombées prestigieuses, les incertitudes sur l'évolution des qualités des chercheurs, l'asymétrie des enseignants-chercheurs, professionnels semi-indépendants qu'il faut protéger justement des prises de risque, dans un environnement qui se transforme vite sous l'accroissement des progrès scientifiques et des effets de concurrence internationale dans une économie de l'innovation. Deux années de suite, en 2015 et en 2016, le sociologue spécialiste du monde du travail s'est penché des États-Unis au modèle français sur les différences, les mutations et les convergences dans son cours intitulé « La production du savoir, carrières et compétitions dans l'enseignement et la recherche ». Avant de nous pencher plus spécifiquement sur les établissements français à partir de lundi et sa série de cours pour l'année 2016, nous abordons ce matin la question de la sélection aux États-Unis et en Europe. Que signifie le délai avant titularisation? Pourquoi un processus de recrutement probatoire aussi sophistiqué? Pierre-Michel Minger rappelle les quatre fonctions d'un universitaire: enseignement, recherche, administration et gatekeeping, selon l'expression de Zuckerman et Merton dans un article de 1972, pour définir la multiplicité des actes d'évaluation par les pairs, de l'embauche à l'expertise des articles ou des dossiers de candidature. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 6 mars 2015 pour le cours de Pierre-Michel Minger intitulé « La production du savoir, carrières et compétitions dans l'enseignement et la recherche ».
Comment s'assurer de la qualité des enseignants qu'on embauche, sachant l'incertitude qui entoure la performance de recherche? Deuxièmement, comment s'assurer que cette performance sera durable? Et troisièmement, comment agir sur les comportements des universitaires si leur performance varie ou se révèle moins bonne en recherche? Et comment gérer des carrières qui sont soumises, comme je l'ai déjà indiqué, à la loi de la productivité tendanciellement décroissante de la recherche ou de l'intensité de recherche et de la qualité de recherche avec l'âge et l'ancienneté. Cette question est, et je vous rappelle que j'ai pris cette fois-ci le point de vue de l'organisation. J'examine trois perspectives et je tourne autour de ces perspectives de points de vue différents. La question est d'autant plus difficile pour l'organisation que les enseignants disposent d'un fort pouvoir discrétionnaire sur l'agencement de leur travail. Ça n'est pas une simple affaire d'exploitation des marges d'incertitude qui sont laissées béantes par l'impossibilité pour ce qu'on appelle le principal dans une théorie du principal agent, c'est-à-dire l'université employeuse, l'impossibilité pour elle de contrôler la manière dont l'agent alloue son effort, son temps de travail, entre ses différentes tâches. Et je vous renvoie ici sur des développements, par exemple, sur la question comment traite-t-on un problème de multitasking, de tâches multiples, pour empêcher les individus ou pour veiller à ce que les individus ne concentrent pas toute leur activité sur une seule tâche et au détriment des autres. Ou des thèses plus classiques, comme celle de Michel Crozier dans Le phénomène bureaucratique, qui analysait l'exploitation de marges d'incertitude de la part des employés ou des salariés pour réagir à leur situation au sein de l'organisation. En fait, ça n'est pas simplement une affaire d'exploitation de marges d'incertitude. Et pour le comprendre, il faut encore une fois revenir à ce couplage enseignement-recherche pour qu'il nous livre un secret supplémentaire. C'est celui de la double loyauté. Les membres du corps enseignant d'une université ne sont pas des employés de leur organisation au sens habituel, ils sont plutôt des professionnels semi-indépendants. C'est ce que disait par exemple Jim Coleman dans un article de 1973, ou, comme on le dit aussi dans la littérature, des professionnels incorporated, c'est-à-dire employés dans une organisation, membres d'une organisation. Ici, je vais vous présenter une caractérisation des emplois dans les organisations que j'extrais d'un livre de Elliot Fredson qui s'appelle Professionalism Reborn de 1994 et qui permet de comprendre ce qu'est la situation. Et cette caractérisation, elle est assez utile parce qu'elle permet de situer les universitaires, donc une profession au sens anglo-américain du terme, avec un haut niveau d'expertise, un haut niveau d'indépendance, un autocontrôle du groupe qui est élevé. Il suffit d'agir sur une des dimensions de leur activité pour y introduire un degré de dépendance ou de subordination plus important pour voir le corps entier réagir. Donc la concurrence aussi par la virtuosité ou l'inventivité, si vous voulez, et la concurrence par la réputation obtenue auprès des pairs, la particularité étant que les pairs sont aussi des concurrents, ce qui est une particularité intéressante, obtenir sa réputation et donc l'estime de vos pairs, mais sous la condition qu'ils sont aussi vos concurrents. Et donc ils doivent allouer de l'estime d'une manière assez particulière. Ces universitaires professionnels ont la sécurité d'emploi des membres d'une organisation ou d'un corps de la fonction publique, par exemple, et néanmoins donc aussi cette capacité d'agir de manière assez indépendante ou auto-indépendante, pardon, et auto-gouvernée. Aux États-Unis, ceux qui obtiennent la tenure, c'est-à-dire la garantie d'emploi totale, une fois qu'ils ont accédé à un emploi d'associate professor ou de full professor, ils ont une sécurité d'emploi totale et c'est un cas à peu près unique sur le marché du travail américain, je vous le rappelle. Il n'y a quasiment pas d'emploi dans n'importe quel type d'organisation américaine, sur le marché du travail américain ou l'entreprise, il n'y a pas d'emploi qui bénéficie d'une garantie équivalente à celle du professeur tenured aux États-Unis. Et l'essentiel des actes d'évaluation qui structurent les carrières sont par ailleurs le fait des universitaires eux-mêmes qui sont considérés comme les seuls capables et les seules habilités à pouvoir juger du travail, des qualités et des mérites scientifiques de leurs pairs. Il en va ainsi pour les études doctorales, jury de thèse, comité de thèse habilité à délivrer le titre, pour le recrutement pour les premiers emplois, pour la titularisation et pour les mouvements de carrière, c'est-à-dire la mobilité entre des emplois à la faveur d'un recrutement dans une autre université. Tout ça est organisé autour de multiples informations et évaluations que fournissent les pairs. Et ces pairs sont les membres de l'université, les membres de la communauté extérieure à l'université, etc. Il en va aussi de même pour l'allocation de la plupart des fonds de recherche par des instituts ou des agences qui font appel le plus souvent à des comités d'experts et à l'évaluation par le peer reviewing, l'examen des dossiers par les pairs. En cumulant l'ensemble des leviers du peer reviewing, on peut voir se constituer en quelque sorte une méta-organisation qui enveloppe et coiffe toutes les organisations, cette organisation, c'est celle de la communauté professionnelle qui impose sa hiérarchie extra-organisationnelle ou supra-organisationnelle aux organisations elles-mêmes pour des parties absolument essentielles de l'activité et de la carrière des individus. Avec la sécurité d'emploi des membres d'une organisation et avec leur ancrage, d'autre part, dans une communauté de pairs dotée de ses règles et de ses hiérarchies et principes d'évaluation, les universitaires sont donc à la fois des salariés et des indépendants. Leur culture principale n'est pas la culture de l'organisation et de ses principes de commandement. Et la supériorité accordée à la recherche pour l'avancement dans la carrière, pour la mobilité entre les organisations et pour la stratification des organisations aiguise un problème de double loyauté. Loyauté à l'égard de l'organisation qui vous emploie et du corps dont vous dépendez, et loyauté à l'égard de la communauté auprès de laquelle vous obtenez estime, ressources, échanges, connaissances, etc. Alliance et concurrence. Ce problème de double loyauté serait difficile à gérer si les universités étaient elles-mêmes des organisations classiques dans lesquelles le personnel des enseignants-chercheurs serait en quelque sorte une exception à gérer tant bien que mal. Mais les universités ont beaucoup plus de traits et de structures de gouvernance d'une communauté autocontrôlée que d'une organisation hiérarchisée habituelle, en tout cas pour un certain nombre des dimensions de leur organisation. Je ne vais pas détailler ici les éléments de cette structure de gouvernance des universités, ni les différences selon les contextes nationaux, ni les évolutions récentes, mais je voudrais insister simplement ici sur deux points. Dans la plupart, sinon l'ensemble des universités, les structures de délibération et de décision sont essentiellement constituées à partir d'instances collectives, de comités, de conseils ou, de manière plus symbolique, coopérationnelle, de sénats. Ces instances sont composées d'enseignants, de cadres administratifs, de représentants des étudiants et des autres catégories d'actifs, de personnel. Mais pour ce qui touche au recrutement, aux promotions et aux titularisations des enseignants et à l'évaluation des départements, des programmes d'enseignement et de recherche, ou à même à l'évaluation de l'université tout entière par l'extérieur, ce sont les membres du corps enseignant, interne ou externe, qui sont détenteurs de la seule légitimité incontestable. D'autre part, la plus grande partie des rôles clés d'administration des départements et des universités dans leur ensemble sont, à un certain nombre de différences près qui tiennent à l'éventuelle professionnalisation des fonctions de président d'université. Ça n'est pas le cas en France, mais ça existe dans un certain nombre de pays, comme aux États-Unis, où vous avez une chronique très développée des carrières des présidents d'université et aussi de leurs salaires considérables et du marché des emplois de présidents d'université. La plupart de ces rôles clés d'administration des départements et des universités sont assurés par des académiques eux-mêmes, directeurs de département, doyens, provosts, directeurs des études, etc. Ceux-ci retourneront le plus souvent à leurs activités d'enseignants une fois leur mandat terminé, comme Cincinnatus. La hiérarchie des fonctions, enfin je fais une allusion un peu rapide, après une activité extra-professionnelle, je reviens à mes activités normales. La hiérarchie des fonctions organisationnelles qui est requise par le fonctionnement de ces établissements est donc enchâssée dans cette géométrie plus horizontale de la communauté des pairs dans la collégialité professionnelle. Ce qui rend la décision à la fois plus légitime sur des actes essentiels, recrutement, gestion de carrière, organisation du travail, d'enseignement et de recherche, et aussi beaucoup plus difficile quand le jeu devient non pas à somme positive des changements sans perdant, mais à somme nulle, supprimer des programmes, créer des incitations génératrices d'inégalités de rémunération et de carrière, allouer des moyens à tel département plutôt qu'à tel autre. L'affaire est assez compliquée quand les pairs sont à la manœuvre et qu'ils voient bien qu'ils vont devenir à la fois, ils sont encore des pairs, mais ils peuvent devenir rivaux. Les critères de choix et les procédures de prise de décision sont pour une part non négligeables, plus vagues et moins codifiées que dans un univers de rationalité orienté vers un objectif, par exemple, de profitabilité régime d'organisation hiérarchique des emplois et des responsabilités. Les réformes de gouvernance introduites en Europe à la faveur de la culture du New Public Management transforment ces mécanismes flexibles, communautaires et pour partie informels. Mais l'exemple, et c'est un point important, mais l'exemple de la généralisation du recours au peer reviewing illustre le phénomène, et celui-là il n'est pas modifié, il illustre ce phénomène d'encastrement dans des méta-organisations détentrices de la légitimité des choix d'allocation des moyens nationaux à travers des comités d'experts choisis d'ailleurs dans la partie la plus reconnue de la profession. Je reviendrai sur cette question parce que le gouvernement par les pairs a aussi ses problèmes, bien sûr, notamment s'il est filtré par des choix de pairs qui ne sont pas des choix naturels, mais qui sont des choix construits. Le recours à des instances externes indique comment sont gérés ces problèmes d'allocation compétitive des moyens qui sont difficiles à résoudre en interne sans déclencher les difficultés, les jeux et trafics d'influence et les stratégies manœuvrières suscitées parce que je m'indiquais comme un jeu à somme nulle qui serait arbitré en interne par vos pairs qui sont aussi vos collègues. C'est une vraie difficulté. Alors, les deux traits que j'ai examinés, cette double loyauté des universitaires et la particularité de la gouvernance des universités illustrent un point que je vais indiquer. L'action des établissements universitaires sur le comportement de leur corps professoral est une action complexe, ou pour le dire autrement, la marge d'action discrétionnaire que se réservent les universitaires dans leur travail n'est pas une sorte de dérive, mais une donnée constitutive de la double identité professionnelle des enseignants-chercheurs. Alors, j'en viens donc à ce point. Comment les universités s'y prennent-elles pour recruter leurs enseignants sur la base de qualités requises qui sont pour partie normalement distribuées et pour partie asymétriquement distribuées et incertaines? Il faut du temps pour qu'elles se révèlent. Puis ensuite, comment font-elles pour orienter les comportements, allouer les tâches dans un système sous contrainte de marge discrétionnaire attachée à cette double loyauté des universitaires? Et enfin, comment gèrent-elles les carrières étant donné le profil temporel différent de productivité des tâches? On peut admettre que la productivité dans l'activité d'enseignement est assez constante dans le temps d'une carrière, alors que, comme je l'ai dit, celle de la recherche est différente, elle va décliner. Alors, premièrement, comment identifier les chercheurs enseignants à recruter? Quelle est la stratégie que mettent en place les institutions scientifiques et universitaires pour trouver les individus qu'elles cherchent? C'est une stratégie du déséquilibre. Beaucoup de candidats entrent dans la course pour exercer l'activité qui est gratifiante et prestigieuse, mais aussi risquée, la recherche. Et c'est après une succession d'épreuves que la décantation s'opère et que certains vont émerger et être sélectionnés. Bien sûr, comme je l'ai déjà indiqué, la situation sera intenable si tous ceux qui s'engagent dans ces épreuves concurrentielles et sélectives ne peuvent pas disposer de solutions de couverture des risques qu'ils prennent en cas d'échec. Si, par exemple, ils n'ont aucun espoir de reconversion ou si leur diplôme et leur savoir qu'ils ont accumulé et appris à maîtriser et à produire pendant leur doctorat et leurs années ultérieures avant l'entrée dans les épreuves de sélection concurrentielle, si ces savoirs sont tellement spécialisés qu'ils n'ont pas de valeur dans d'autres métiers possibles ou dans d'autres secteurs d'activité possibles ou qu'ils n'ont pas de valeur suffisante pour rendre acceptable le risque d'investissement dans cette formation au débouché incertain. Pour traiter cette question, les organisations universitaires ont plusieurs solutions. Elles peuvent raccourcir le nombre d'épreuves de sélection en recrutant un nombre limité de candidats à un emploi dans l'enseignement et la recherche et leur proposer d'emblée la titularisation. C'est le système français. Je vais vous présenter une série de vignettes que j'ai extraites d'un document de la League of European Research Universities, qui fait une career map, des tableaux de carrière, de modèles de carrière dans les différents pays, dans un certain nombre de pays européens, et qui donc a plusieurs informations. C'est encore une fois une condensation d'informations. Ici, vous avez les années qui s'écoulent et donc les différentes étapes de la carrière sous forme de phases. Phase 1, 2, 3, 4, les années s'écoulent. Et ici, en couleur, vous avez un certain nombre de couleurs qui indiquent comment sont financées ces positions. La France se situe ici. Donc, vous avez une situation assez simple. Vous avez peu d'emplois financiers sur des fonds externes et durablement. Vous avez beaucoup d'emplois de bourses au début. Et ensuite, vous avez un mécanisme de recrutement stable, immédiat. Ce sont des fonds propres du système, l'État et ses organisations publiques. Et la carrière se déroule par transition. Le dualisme français, comme je l'ai indiqué antérieurement, c'est essentiellement des emplois externes greffés sur et qui sont en apport à l'organisation les carrières se déroulent dans l'enceinte des universités, mais elles sont elles-mêmes gérées par les organismes qui mettent ces emplois-là, en quelque sorte les confient aux laboratoires de recherche, par exemple, des universités. Le système est, pour le dire d'un mot, est extrêmement différent dans un pays juste voisin, l'Allemagne. Vous avez des carrières extrêmement longues, vous voyez que ça peut aller jusqu'à 20 ans ici, des carrières très longues sur des fonds de recherche qui doivent être réalimentés régulièrement. Si un laboratoire ou une université et son équipe ne trouvent pas le fonds nécessaire, les emplois s'arrêteront, mais ils peuvent être reconduits extrêmement longtemps et dans des phases 2 qui peuvent durer longtemps. Donc ce sont des emplois provisoires ou précaires qui peuvent durer longtemps. L'amorce d'une carrière sur des fonds stables, elle intervient ici, elle est assez courte, et c'est après que des sélections s'opèrent. La structure hiérarchique des emplois est en quelque sorte entrelacée de situations plus précaires ou qui sont dépendantes de financements externes, parfois même des financements, ce qu'on appelle un private docent en Allemagne, est payé s'il y a de l'argent pour payer son activité. S'il n'y en a pas, il suspend son activité ou il quitte le métier. Donc, ça vous donne l'idée de quel est le mécanisme de sélection. Ici, on a des cas donc très contrastés. Je vous donne le cas de par exemple, de la Suède. La Suède a un système qui, pour une partie, ressemble au système français, sans le dualisme institutionnel. Mais il y a aussi des positions très longues de financement de recherche sur des fonds qui dépendent des apports de financement extérieur, des compétitions sur des projets financés par l'État ou par des entreprises. Et tant que ça dure, l'emploi est maintenu. Mais si ça ne dure pas, si les financements n'existent plus, l'emploi n'est pas maintenu. Et donc, vous avez un mélange de deux d'emplois très stables et d'emplois pas stables, etc. Et la Suisse pratique un peu le même genre, mais avec des financements sur projet à tous les niveaux, même dans le niveau le plus élevé. Donc les modèles sont vraiment différents d'un pays à l'autre. On n'a pas un modèle européen unifié de tout ça, et c'est intéressant de voir comment les choses se structurent ainsi. La Belgique, par exemple, elle a elle aussi des situations de greffe. Il existe un centre de la recherche, un fonds national de la recherche belge, mais vous avez aussi de ces emplois précaires ou suspensibles, enfin qu'on peut interrompre à des stades avancés de la carrière. Donc voilà la manière de dire comment on peut procéder à des recrutements dans une architecture organisationnelle de ce type. Titulariser très vite, employer très vite des individus qu'on a identifiés, mais en nombre évidemment limité, parce que l'entonnoir est très rapidement constitué, ou alors, comme je viens de le montrer pour un certain nombre de cas, Allemagne, Belgique, Suède, de différentes manières, avoir une architecture des carrières avec plusieurs bifurcations possibles et les individus se distribuant sur des voies qui sont plus ou moins reliées entre elles, certaines étant des impasses, d'autres des voies qui débouchent sur des positions plus stables. Donc, voilà un exercice intéressant, et la comparaison internationale intra-européenne nous fournit une riche matière ici que je ne vais pas commenter davantage. Le troisième cas, c'est un cas qui, en quelque sorte, oblige à fixer, à concentrer la focale sur le mécanisme de sélection lui-même avec un double mécanisme. C'est le cas américain. Le premier mécanisme de sélection, il est opéré tout simplement par la propriété extraordinairement stratifiée des universités, du système universitaire. Et les individus, les candidats à un emploi, sont distribués sur les différentes strates du marché des emplois en fonction de leur qualité supposée. Les meilleurs candidats, c'est-à-dire le plus souvent ceux que produisent les meilleurs départements, c'est-à-dire ceux qui ont été sélectionnés pour leurs études doctorales par ces départements, qui ont été formés et qui ont bénéficié de tous les avantages qu'offrent ces départements, avant d'en devenir des représentants dans la course aux emplois, ces candidats se présentent sur le marché des postes les plus enviables des universités de pointe et, en cas d'échec, par exemple de conjoncture défavorable, de pénurie de postes, d'intensité de compétition très élevée, de mouvement en accordéon de l'offre et de la demande pendant une période donnée. Ça, c'est un point intéressant. Quand il y a un mouvement d'accordéon, il y a un retard à l'entrée dans la carrière qui peut se perpétuer en termes de désavantages cumulatifs, sans que l'individu y soit pour rien. Donc, il y a un effet d'aléa par composition qui est très impressionnant. Soit encore, ils peuvent se placer, en cas d'échec, ils peuvent se placer sur des positions de réserve qui sont fournies par leur département. C'est une activité très, très minutieusement organisée dans les universités, parce que ne pas placer un de ces étudiants, c'est une catastrophe. Donc, on va leur donner des post-docs de plus, des bourses qui sont prolongées, des emplois, des mix entre TA RA, Research Assistant et Teaching Assistant, etc., et avant qu'ils recandidatent. Ou alors, ils vont choisir un poste dans une université moins prestigieuse où, s'ils continuent à être actifs en recherche, ils obtiendront des avantages et des résultats qu'ils pourront monnayer ensuite pour revenir dans le premier cercle des emplois plus prestigieux quand ils vont chercher un poste tenured ou avoir une mobilité. Ça, c'est le mécanisme de la stratification qui s'impose à l'ensemble du système et à toutes les organisations par une méta-organisation stratifiée. Le deuxième mécanisme, c'est celui de la fameuse titularisation, de la tenure. Et ça, c'est un point vraiment intéressant à examiner. L'emploi d'assistant dans un système comme ça ne procure aucune garantie formelle de titularisation au terme de la période probatoire de 6 ou 7 années, même parfois davantage, je vais y venir tout de suite, car la titularisation, elle concerne soit l'université où est employé le candidat à la tenure, soit toute autre université, si l'université, par exemple, adopte la règle de non-titularisation sur place, comme dans un certain nombre d'universités ou dans certains départements qui ne recrutent pas sur des positions permanentes, et ils ne recrutent sur des positions permanentes tenured que des gens venus de l'extérieur, pas simplement des doctorants qui ont fait carrière à l'intérieur de l'université et qui sont priés d'aller voir ailleurs de toute façon, mais aussi une fois qu'on a fait sa période de pre-tenure comme assistant, on n'est pas titularisé sur place du tout. Il y a un certain nombre d'universités qui en font une règle. D'ailleurs, vous allez voir, elle peut être appliquée de manière assez variable. Alors, donc, l'emploi est conditionnel avec une période probatoire d'examen de la qualité des individus et du jeu de la compétition entre ceux qui entrent dans ce cercle de la probation et de l'attente de titularisation. Et je vous présente ici des données que j'ai extraites de documents de l'université de Yale qui vous donnent le taux de ce qu'on appelle la rétention, c'est-à-dire, attention, c'est pas tout à fait la titularisation, vous allez comprendre très vite, le taux de rétention dans une cohorte d'assistants qui ensuite espèrent la tenure. Pourquoi est-ce que la rétention, ça n'est pas un taux simple de titularisation? C'est que une partie des individus, au cours de leur période d'assistant professor, se sont évaporés. ils partent. Ils estiment que leurs chances ne sont pas suffisantes, que la compétition va les défavoriser. Ils ont peut-être des raisons personnelles d'abandonner le métier au vu de ce qu'ils en font, etc. Ou alors, ils ont obtenu des offres ailleurs et qui leur paraissent immédiatement plus séduisantes, avec un risque plus, une chance plus élevée d'être titularisé, quoi qu'il arrive. Alors que à Yale, d'après les scores que vous voyez ici, le Yale tenure rate, il peut être élevé dans les sciences biologiques, mais il est extrêmement faible dans d'autres départements, humanities 11%, social science 15%, physical science 27%, et au total de la Faculty of Arts and Sciences, c'est 19%. Donc c'est vraiment pas grand-chose. C'est un score qui fait penser qu'il y a un mélange de deux mondes. Il y a un monde où, quand vous entrez, vous avez une chance raisonnable d'être titularisé. C'est dans les sciences biologiques. Ça dépend probablement aussi des propriétés démographiques du secteur et des forces intrinsèques de l'université quand elle veut muscler ses départements. Mais il y a aussi un mécanisme où la règle implicite, c'est le risque que vous ne soyez pas titularisé est extrêmement élevé, et donc une fois que vous avez fini votre temps d'assistant, il faut penser à aller ailleurs. Et l'espoir, c'est que votre période d'assistant dans l'université, pour le candidat, a été suffisamment prestigieuse pour qu'il soit bien équipé pour aller faire valoir ses chances ailleurs. Mais ça n'est pas le cas de toutes les universités. Ici, je vous présente les données de Penn State, Pennsylvania State University, sur un certain nombre d'années, de 90 à 97, et les scores de tenure rate, encore une fois, sous les conditions que j'ai indiquées, ils sont quand même beaucoup plus élevés. Ils ont 58, 59, c'est les scores moyens, tout département confondu. Ça fluctue entre 55 et un peu moins de 50 au fil des années. Donc, les pratiques sont extrêmement différentes. Ici, j'ai une autre information qui vous donne les taux de tenure rate sur un ensemble d'universités de recherche qui font partie de l'American University Institution Association, et les données sont de 97-98 jusque des individus entrés en 97-98 et dont la tenure est considérée en 2004. Et donc vous avez des exemples d'universités ABCD, 10 universités avec le nombre d'entrants, et là encore les taux fluctuent d'université à l'autre, mais sont plutôt, le taux le plus sévère c'est 33%, et on compare ici les hommes et les femmes, les taux d'ensemble sont plus favorables aux hommes qu'aux femmes. Voilà encore un sujet de méditation sur lequel je ne vais pas insister aujourd'hui, il faudra y revenir l'année prochaine, c'est la différence homme-femme sur ces questions-là. Mais le score, vous voyez, là aussi, il va varier beaucoup, il va varier en fonction des universités, on peut aller jusqu'à 67%, deux tiers, donc la sécurité dans un poste d'assistant peut être assez élevée une fois que vous avez été recruté. Mais elle n'est que de 33%, donc d'un tiers dans cette université-là. Quel que soit le taux et les modalités de retention, de rétention ou de taux de probation, de titularisation, la situation de probation est un mécanisme de screening et sorting out, c'est-à-dire on veut vérifier ce que sont les qualités des individus et retenir éventuellement, si on y arrive ou si on a les moyens, ceux qui sont dotés des qualités qui sont jugées les plus désirables. Et dans tous les cas, les seuls juges de la qualité des candidats au recrutement, puis ultérieurement à la titularisation ou à l'embauche sur des emplois tenured ou tenure track, sont les collègues qui sont déjà en place. Pas plus l'administration des universités que les étudiants eux-mêmes, qui pourtant vont évaluer beaucoup l'acte d'enseignement, ne sont en mesure de déterminer qui a les qualités scientifiques requises pour être un enseignant-chercheur de la qualité recherchée. La conséquence est celle-ci. D'une part, l'université doit faire du risk pooling, de la mutualisation de risques, au stade de l'embauche probatoire, en offrant des emplois temporaires à ceux qui vont être soumis à l'épreuve probatoire de ce « up or out », et en offrant un nombre d'emplois temporaires qui est supérieur aux emplois qui vont être stabilisés définitivement, ou alors ils vont offrir des emplois plus rarement à ceux qui, de toute façon, devraient ensuite quitter l'université et se faire titulariser ailleurs si, comme je l'ai dit, l'université ou le département en question n'offre pas d'emploi de titularisation sur place. Et, comme je l'ai dit, les pratiques sont très variables, même au sein d'une même université, selon les départements qui peuvent ou non adopter une règle couturière de promotion sur place ou non.
Le Collège de France et France Culture vous présente Pierre-Michel Menger, la production du savoir, carrières et compétitions dans l'enseignement et la recherche.
Donc l'université, dans ce contexte de recrutement par le mécanisme de la tenure, paye donc pour des emplois temporaires dont le nombre est excessif au regard de l'objectif. Stabiliser, trouver et stabiliser certains. Or, ces emplois sont pour partie seulement des emplois d'enseignement, et donc ils ont une fonction de production, on peut dire, à ce stade-là déjà, bien sûr. Mais ils ne sont que partiellement des emplois d'enseignement, et en règle générale, ils sont temporairement allégés, ces emplois, des charges d'enseignement qu'on attribue ordinairement au corps professoral permanent, pour que les jeunes candidats en situation probatoire aient plus de temps pour faire leurs preuves dans la partie la plus risquée, la plus incertaine, c'est-à-dire la recherche et la production de publications significatives. Bien sûr, il se peut aussi que les enseignants permanents bénéficient de cette présence des assistants pour augmenter leur production propre de recherche et donc obtenir une contrepartie de ces investissements réalisés par l'université, même si une partie de ces assistants ne vont pas rester, un bénéfice aura été obtenu de toute façon. Ça va poser éventuellement un problème ensuite de qui doit choisir ceux qu'on va titulariser et comment éviter des conflits d'intérêts. Mais la situation, de toute façon, est bien celle d'une mutualisation du risque. Pour que les candidats à la tenure aient la possibilité, le temps de révéler leurs qualités et de franchir des épreuves sélectives, il faut disposer d'un vivier qui est plus important que celui qui va se révéler, celui du recrutement effectif et permanent. Alors, deuxième point, comment l'université procède-t-elle à ces recrutements définitifs quand il s'agit de titulariser certains seulement ? Il y a évidemment un risque de procéder à des choix qui sont imparfaits ou biaisés, et problème complémentaire, il y a le risque que l'activité réalisée par la recrue ne corresponde pas à ce qui était attendu d'elle. Ce problème numéro 2 est plus compliqué à traiter que le premier, en raison de la multiplicité des tâches attendues d'un enseignant-chercheur. Je vais donc l'examiner plus loin comme un problème de carrière. Mais je regarde le premier problème, et je m'appuie ici notamment sur un très joli article d'un collègue qui fait carrière au Canada, Aloysius Sio, Tenure and Other Unusual Personal Practices in Academia, de 1998, et qui traite assez bien tous ces problèmes en termes de mécanismes. Le problème auquel toute université et tout enseignant-chercheur font face, ce problème est simple. D'une part, le savoir avance rapidement, avec une forte croissance des effectifs de chercheurs, avec l'intégration mondiale de la communauté scientifique, avec l'augmentation du nombre et des supports de publication et du nombre de publications, avec l'abaissement des coûts de communication, des collaborations, des rencontres entre scientifiques et l'intensification de la concurrence qui est liée à différents mécanismes d'incitation et de stratification. D'autre part, ce savoir qui progresse, il progresse de manière imprévisible. Conséquence immédiate, personne ne peut se maintenir sur le front avancé de la totalité de sa discipline. La solution évidente, c'est la spécialisation, qui est un processus en cascade avec une fragmentation quasi fractale en sous- et parfois micro-spécialités. Mais la spécialisation, elle comporte un risque, c'est le risque de l'obsolescence. Un sous-domaine dans lequel vous vous spécialisez peut très bien devenir totalement obsolète, même si l'inertie fait que l'obsolescence n'apparaît que progressivement ou même a posteriori, après un certain temps, et vous n'avez rien vu venir. L'obsolescence, elle est à la fois interne et externe. Une voie spécialisation se révèle stérile, ou au contraire, les réponses principales ont été emboîtées dans une révolution plus générale, les réponses à la spécialisation, et le changement peut être d'ordre global. Par exemple, une collègue me parlait de la refondation des mathématiques au XXe siècle, qui a donné lieu à une floraison de travaux extraordinaires avec des spécialisations sur des grandes questions qui reprenaient la matière de la mathématique fondamentale. Et les gains à la spécialisation étaient très élevés au moment de cette période de refondation. Mais ensuite vient un épuisement de cette période-là. Et donc la spécialisation peut se révéler être, en quelque sorte, génératrice de gains marginalement décroissants puis nuls et un sentiment de stérilisation progressive du domaine. Ceux qui demeurent dans la voie qu'ils pratiquaient détiennent en quelque sorte une rente de spécialisation, mais dont ils ne savent peut-être pas tout de suite qu'elle risque d'être démonétisée, surtout s'ils ont pu se constituer une écologie de spécialisation qui constitue aussi une sorte de groupe de référence et de réassurance mutuelle. La concurrence entre les générations de chercheurs est aussi une manière de déloger les détenteurs de cette rente professionnelle qui est en décalage avec les avancées scientifiques. Mais l'épuisement de la valeur d'une spécialisation peut aussi venir d'un changement externe, de nouveaux équipements, une découverte dans un autre scientifique qui bouleverse l'approche traditionnelle du champ de spécialisation, de nouvelles techniques d'expérimentation, l'émergence de nouveaux concurrents dans des pays ou d'autres universités qui ont une technologie de production de la recherche qui est nouvelle ou plus productive, etc. Donc, au total, il y a une frontière de possibilités. La spécialisation est une nécessité imposée par l'avancée du savoir, mais le risque d'obsolescence d'un savoir s'accroît avec le degré de sa spécialisation. Et s'il y a un risque, il faut trouver un moyen pour l'individu qui fait face à ce risque de s'assurer contre lui. C'est précisément la garantie que fournit l'octroi d'un emploi permanent sous tenure et d'un revenu qui, pour l'essentiel, ou parfois pour la totalité, ne varie pas avec la performance. La couverture du risque n'est cependant pas complète pour ceux qui, comme les assistants sur des emplois tenure track, doivent investir dans un savoir spécialisé tout en n'étant pas certains d'être titularisés. Le problème de cette spécialisation des savoirs est évidemment aussi une question que l'organisation elle-même doit traiter. Il s'agit de définir l'équilibre entre la productivité de la recherche spécialisée que l'université doit observer, notamment par exemple quand elle veut recruter et titulariser des assistants, et qu'elle doit encourager pour se maintenir sur le front avancé du savoir, d'une part, mais aussi la nécessité de couvrir des parties essentielles de l'enseignement non doctoral qui sont beaucoup moins spécialisées par essence, d'autre part. Là encore, l'association entre enseignement et recherche est asymétrique et le système d'embauche conditionnelle au long d'épreuves probatoires conduit l'organisation à savoir ou à apprendre progressivement si le candidat peut se débrouiller de cette asymétrie, savoir se spécialiser en recherche et savoir délivrer un savoir plus généraliste au niveau undergraduate notamment. La période probatoire est en réalité une période pendant laquelle les assistant professors relèvent le défi de l'asymétrie en étant, par ce mécanisme d'embauche conditionnelle, incités d'ailleurs à élever leur niveau d'effort de toute façon. Je vais vous montrer ici une preuve possible de cette affaire. C'est le temps hebdomadaire de travail dans une enquête sur 150 universités doctorales américaines de trois auteurs, Link, Swan et Bozeman. On a décomposé le temps de travail hebdomadaire selon le rang. Assistant, associate full, je vous donne le commentaire rapide. Teaching, c'est à peu près équivalent. L'assistant travaille beaucoup. En total, il travaille 56 heures, alors que l'associate travaille 52 heures et le full 53. Donc, l'assistant doit vraiment travailler énormément pour manifester et précisément remplir toutes ces fonctions dont j'ai parlé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a une activité de recherche qui est supérieure en intensité, 22h68, à celle de l'associate et à celle du full professeur 19 et 17 et 19 respectivement. Donc vous voyez que le problème, c'est celui-là. L'assistant a une période de très grande intensité de travail où il doit remplir tous les rôles, et notamment celui de recherche, parce que c'est celui qui est le plus incertain et celui sur lequel une grosse partie de la sélection se fera, du moins dans les universités doctorales qui sont celles qui sont concernées par cette enquête. Donc, Ceci me conduit à une autre observation qui s'appuie d'ailleurs sur les données de Aluzio. Ici, dans ce tableau, vous avez la situation d'ancienneté dans les universités, selon qu'elles sont doctorales ou non. L'ancienneté dans les universités doctorales des assistants est supérieure à celle qu'elle est dans les collèges. Parce que, tout simplement, on doit prendre plus de temps pour faire ses preuves. C'est l'inverse quand on est full professeur. L'ancienneté dans une université est moins longue parce que la mobilité est plus élevée. On va jouer sa chance pour avoir d'autres expériences de travail ou éventuellement de meilleurs salaires, je vais y revenir, avec plus d'intensité. Et donc, le signal est négatif de près d'un an. Donc, la demande de compétences, elle est multiple et elle conduit à avoir une durée de titulaire avant la titularisation qui est plus élevée. Ici figurent des données de l'université de Yale qui sont des données qui montrent quelle est la durée pendant laquelle on va observer les individus. Alors, normalement, c'est une période de 6 années. Mais vous voyez que l'affaire continue. Donc, vous voyez qu'il y a encore une vie après les 6 années clé cruciale. On va continuer à regarder, on va laisser encore le jeu se décanter ici parce qu'on n'a pas extrait toute l'information et qu'on a besoin d'un délai supplémentaire. Au total, les données montrent que la durée moyenne de titularisation, elle n'est pas de 6 ans, mais elle est de 7 ans, elle peut aller jusqu'à 7 ans et demi, etc. Et on a encore ensuite des individus qui vont être titularisés au bout de 10 ans. 12% de ceux qui auront été titularisés l'auront été au bout de 10 ans. Et en moyenne, c'est 13%, 12% des humanités, et au total, dans l'ensemble du système à Yale, c'est 13%. Donc, on a besoin de temps. Mais ceci est intéressant, même si on est dans des univers de sélection qui ne nous sont pas familiers, parce que ça révèle la complexité d'un mécanisme de sélection et de recrutement sous les conditions d'asymétrie d'information et d'incertitude. L'asymétrie d'information tient au fait que le candidat en sait plus long que l'institution sur ses capacités, sur ses préférences, sur ses arbitrages, entre le risque de tenter sa chance dans une université très sélective et le choix de chercher une solution ailleurs, d'où le fait de l'écart entre taux de titularisation et taux de rétention, comme je l'ai dit tout à l'heure. En revanche, l'institution, elle en sait plus long sur ses besoins et sur le profil qu'elle recherche. D'autre part, l'incertitude tient au fait qu'une partie de ce que doit apprendre le candidat sur l'emploi et sur ses chances d'y réussir ne peut être appris que sur le tas, de manière séquentielle. Et l'université, le département, les collègues qu'ils composent ne peuvent eux-mêmes apprendre la qualité du job match, c'est-à-dire la qualité de l'appariement entre eux-mêmes et les candidats, que progressivement. Donc, c'est la solution de la fameuse tenure clock, comme on l'appelle là-bas, qui consiste à réduire l'incertitude par un traitement séquentiel de la situation. Vous avez ici la fameuse tenure clock qui montre le nombre d'années au cours desquelles ça va se dérouler. 9 ans, c'est l'année où on prend la décision, et la 10e année, ça sera celle de décision effective de titularisation. Mais voilà le déroulement normal. Il y a un premier examen de la situation au bout de la 3e année, quand on est entré comme assistant professeur, et on peut éventuellement ne pas rester, donc c'est un des facteurs d'évaporation. Et au bout de 6 ans, on a c'est le terme théorique de la situation. Et donc, on va examiner si on promeut ou non. Mais vous avez un autre mécanisme qui est la possibilité de prendre des congés soit financés par une bourse, soit financés par l'université, pour faire de la recherche. Ou pour être disponible sur un programme de recherche et donc accumuler des forces. Et là, vous n'enseignez pas du tout. Donc, on a bien un compteur et un countdown, un compte à rebours qui tourne, mais avec des suspensions possibles qui vont éventuellement prolonger la situation. Voilà le schéma par lequel on traite le problème de comment organiser séquentiellement la recherche et l'extraction d'informations et procéder à une bonne ou à ce qu'on espère être une bonne situation de recrutement. Et évidemment, l'individu là-dedans, il doit estimer ses chances et éventuellement trouver des solutions alternatives au fur et à mesure que le temps passe, y compris comme ça. C'est ça le point. Donc, c'est un graphique de tenure clock standard, en quelque sorte. Et évidemment, on peut y trouver un certain nombre d'exceptions, et dans certaines universités, ils ne fonctionnent pas de cette même manière. Mais ce qu'il faut en extraire, c'est cette question du délai. Elle contient en fait beaucoup d'informations. Il faut à l'organisation suffisamment de temps pour recueillir une information utile et nécessaire sur cette capacité à exercer une combinaison asymétrique de tâches et sur l'investissement à faire en termes de spécialisation de l'emploi dans un monde mouvant de la recherche et un monde mouvant de la demande étudiante pour le type d'enseignement que peut produire l'enseignant candidat à la tenure. Et cet enjeu tient notamment au fait et au caractère tout à fait unique de ce que la garantie d'emploi définitive que procure la tenure. Il vaut mieux ne pas faire d'erreur parce que l'emploi est absolument et radicalement protégé. Mais d'un autre côté, ce temps qui est passé par l'assistant professeur dans une situation d'attente, il a évidemment un coût très élevé en termes d'échec. Et cette probabilité d'échec s'élève si l'université tire son prestige de la capacité d'attirer de nombreux candidats et peut arbitrer entre les candidats qui sont arrivés simultanément ou successivement pendant que tourne cette tenure clock pour chacun des assistants. Donc il y a ce qu'on appelle un coup d'opportunité. Être en piste à Yale, c'est ne pas être en piste dans d'autres universités où peut-être la tenure serait moins prestigieuse mais plus facile à obtenir. Et ce coup d'opportunité est élevé pour le candidat. Et il est d'autant plus élevé que la productivité de recherche est corrélée au jeune âge et à des conditions d'engagement de l'effort qui sont liées au cycle de vie biographique. Pour les femmes, avoir des enfants a un coût professionnel beaucoup plus élevé que pour les hommes, qui n'ont pas le même problème. Mais je veux dire, en termes de capacité de tenir et d'être titularisé, voilà un des mécanismes qu'il faut prendre en compte. Plus généralement, c'est dans les jeunes années que l'intensité de recherche est élevée. Et donc, ces années-là, si vous êtes dans un jeu très incertain qui se termine par un échec, vous voyez bien que les investissements que vous faites ne sont peut-être pas totalement convertibles. Mais c'est aussi d'ailleurs un coût pour le département qui cherche les candidats et qui fait un investissement, et un coût pour les professeurs qui parrainent tel ou tel candidat, qui vont investir eux-mêmes, qui vont être tentés d'allonger la période probatoire pour augmenter les chances de leur protéger et pour repousser le moment critique de la décision. Alors, la question est pourquoi recourir à des processus aussi sophistiqués de recrutement probatoire ? J'ai indiqué le motif d'asymétrie, d'information et d'incertitude, mais il faut compléter la réponse. Le contexte est celui d'un avancement du savoir scientifique qui conduit à la spécialisation croissante. L'organisation, l'université, ne détient pas les moyens d'expertiser ce savoir que détient un candidat, ni sa capacité à l'augmenter ou à le diversifier. Elle doit mettre en œuvre un des rôles fondamentaux qu'exercent les enseignants-chercheurs dans leur vie professionnelle et qui est l'expression de la structuration des emplois selon un marché professionnel. Ce rôle, c'est celui de gatekeeper. Ici, référez-vous à un article de Zuckerman et Merton de 72, Age, Aging and Age Structures in Science, qui décrit les quatre rôles fondamentaux, enseignement, recherche, administration et gatekeeping. Le gatekeeping, c'est la multiplicité des actes d'évaluation qu'exercent les enseignants-chercheurs dans toutes sortes de rôles, recruter, embaucher, titulariser, expertiser des articles, expertiser des dossiers de promotion interne-externe, expertiser des projets de recherche, des financements dans des panels qui attribuent des financements sur concours, etc. Ces enseignants-là, dans ce rôle-là, sont les seuls qui peuvent évidemment exercer le rôle qui est, parce qu'ils sont les mieux informés, ils sont les plus légitimes pour procéder au choix de recrutement. C'est donc une question d'expertise, mais qui a évidemment une résonance tout à fait particulière dans un système d'emploi comme celui du monde académique. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du risque inhérent d'obsolescence des connaissances dû à l'avancement de la science et à la spécialisation, et j'ai aussi mentionné le problème de la courbe déclinante de productivité en recherche. Le problème qui va se poser pour les enseignants, c'est quand ils vont recruter des jeunes enseignants-chercheurs pour essayer de trouver ceux qui ont les qualités requises, c'est que ces jeunes vont avoir des connaissances avancées, une expertise des nouvelles méthodes, des technologies de recherche, qui font que ces jeunes qu'ils vont embaucher sont de redoutables concurrents pour eux-mêmes, pour eux qui sont chargés de les recruter. Ça, c'est une situation intéressante. La productivité de ces jeunes est ascendante, alors que celle de leurs recruteurs est généralement déclinante. Et donc, si la position qui est détenue par les seniors était exposée à la concurrence directe des juniors qu'ils sont chargés de recruter, et si les garanties d'emploi n'étaient pas suffisantes, les seniors seraient très vite relégués, soit licenciés, si la tenure n'existait pas, soit relégués dans des fonctions moins gratifiantes, teaching mostly ou teaching only, soit pénalisés en salaire absolu, perte de salaire, relégation sur la grille des salaires, ou en salaire relatif par rapport au salaire de titularisation d'un jeune collègue. Les seniors, dans ce cas-là, anticiperaient la situation et s'ingénieraient à embaucher des jeunes plutôt moins dangereux pour eux, bref, des concurrents de qualité inférieure à ce que demande le mouvement de la recherche scientifique et à ce que recommande la qualité de leur université. Et cette spirale deviendrait évidemment vite infernale et la situation ingérable. La tenure, c'est précisément ce mécanisme qui permet à des enseignants seniors d'embaucher des jeunes talentueux aux idées neuves et prometteuses sans mettre en péril la situation des aînés. Et ça, c'est un argument célèbre de Lorne Carmichael dans un article qui a fait date, Incentives in Academics, Why is the Tenure, qu'il s'agissait de justifier l'existence de cette garantie d'emploi tout à fait extraordinaire dans le monde américain du travail et des professions. La tenure, en quelque sorte, fournit une réponse possible à ce problème de est-ce que les seniors savent embaucher les meilleurs ou pas. Si ce sont des concurrents qui les délogent, c'est impossible. Donc il faut cette garantie d'emploi. C'est le mécanisme même de la science, de son avancement et de sa spécialisation qui sont les ressorts. Ce ne sont pas des décisions qui tiennent à tel ou tel système. C'est le ressort fondamental du système. Ensuite vient la question, mais qui doit donc procéder à ces recrutements? Quels sont les collègues qui doivent procéder à ces recrutements et de jeunes talentueux? Et ici, il y a cette contrepartie de la garantie exceptionnelle d'emploi qui est fournie par la tenure. Incités à faire des choix judicieux, les enseignants peuvent aussi, s'ils n'ont aucun risque d'être pénalisés personnellement, pratiquer le népotisme, ce qui est un des grands problèmes possibles dans la science, où dans une forme extrême qui n'est pas très observée aux États-Unis, mais qui est un souci qui existe davantage en Europe, le problème de l'endo-recrutement, c'est-à-dire recruter des étudiants qui ont fait leur thèse dans l'université et qui ont obtenu des emplois temporaires dans la même université avant de se présenter sur des emplois de maître assistant dans cette université. Et donc, c'est l'échange et la mobilité qui sont les valeurs premières.
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Pierre-Michel Minger, La production du savoir, carrières et compétitions dans l'enseignement et la recherche, le 6 mars 2015. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, le cours complet, notamment la vidéo où le sociologue présente de nombreux graphiques et tableaux ainsi que l'ensemble de ses cours. La leçon inaugurale de Pierre-Michel Minger a été publiée chez Fayard en 2014. Réalisation Anne Sécheret, présentation Myril Moneghetti. Un grand merci à Annelise Signoret de la Bibliothèque de Radio France et aux équipes de la documentation d'actualité. Lundi, nous partons du côté de la France en compagnie de Pierre-Michel Minger pour la production du savoir suite. Et dans quelques instants, nous retrouvons Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.